Eh bien, on en parle de cette défaite du président américain dans la revue de presse. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, le déni.
Oui, 8 jours après l'annonce de la victoire de Joe Biden, Donald Trump et ses partisans continuent de nier sa défaite et de crier à la fraude, au risque de porter atteinte à la démocratie américaine, constat établi ce matin par Libération. Libération qui compare Donald Trump à un sale gosse. Plus les jours passent, plus le côté cyclotimique et surtout infantile de Donald Trump saute aux yeux. Ses dernières interventions sont éloquentes, épaules tombantes, pas lents, cheveux gris et mine boudeuse vendredi lors de cette première déclaration publique post-scrutin au cours de laquelle il avait bien failli reconnaître sa défaite, grognon sous sa casquette samedi derrière la vitre de la limousine qui fendait la foule de ses supporters pour l'emmener au golf, rageur dimanche dans les tweets envoyés en rafale pour réaffirmer en lettres capitales que l'élection avait été truquée et qu'il, Biden, jamais nommé, n'avait gagné qu'aux yeux des médias fake news. Comme si la Maison-Blanche était un jouet piqué par un petit camarade. Et c'est là qu'on réalise, soupir Libération, l'ampleur des dommages que cet homme a causés et cause encore à la démocratie américaine, voire à la démocratie dans le monde, quand on sait à quel point les populistes de tout poil se sont nourris et réclamés de lui.
Et pour le Figaro, le populisme survivra à Donald Trump.
Car les mutations fondamentales dont il est le produit subsistent. Et se trouve même amplifié, pointe le Figaro, par la crise sanitaire et économique, qu'il s'agisse de la désintégration des classes moyennes, du chômage de masse et des inégalités, du ressentiment et de la polarisation, de la montée de l'insécurité et de la tentation de la violence, de la défiance envers les dirigeants et les institutions démocratiques. L'heure n'est donc pas à la célébration d'une improbable victoire de la démocratie, mais à l'action pour la réinventer, s'exclame le Figaro. Pour les États-Unis, cela exige de Joe Biden et de Kamala Harris qu'ils mettent rapidement en place une stratégie nationale efficace de lutte contre l'épidémie, condition pour la relance de l'économie et surtout qu'ils engagent la réconciliation d'une nation déchirée.
À la une de la Croix, au Karabakh, l'heure des adieux pour les Arméniens.
Fragile Arménie, soupire le quotidien catholique. L'Arménie est traumatisée par le choc de sa défaite face à l'Azerbaïdjan, entérinée par un cessez-le-feu signé la semaine dernière à Moscou. Plus de 2300 soldats ont été tués pour défendre le Haut-Karabakh. Et l'accord stipule qu'une partie de ce territoire donc va rester sous le contrôle de l'adversaire, tandis que les districts d'Azerbaïdjan que les Arméniens avaient conquis durant le conflit précédent seront rétrocédés. L'avenir paraît sombre pour une Arménie dont la dépendance envers la Russie, garante du cessez-le-feu, est encore accrue, pointe la Croix. Des partis revanchards veulent reprendre le pouvoir à Erevan. Pour la diaspora arménienne, nombreuses en France se posent la question du type de soutien à apporter à cette petite patrie chère à leur cœur. Il faut espérer, conclut la Croix, que le plus grand nombre entretiendra l'espoir qu'une paix juste et durable sera un jour possible.
Et puis le dossier du Parisien ce matin, la descente aux enfers d'un couple modèle.
Et c'est vrai que Jonathan Daval et son épouse Alexia étaient resplendissants sur les photos de leur mariage publiées par le journal. Quelques années plus tard, Jonathan Daval comparaît devant la cour d'assises de la Haute-Saône pour le meurtre de sa femme. Un crime qui avait défrayé la chronique il y a 3 ans. Et en effet, commente le Parisien, nous avons tous en mémoire les images de Jonathan Daval marchant effondré aux côtés de ses beaux-parents pour rendre hommage à sa compagne retrouvée assassinée. Et nous avons aussi tous en mémoire le moment où il est apparu que c'était lui le coupable, que ses larmes n'étaient que du cinéma. Ce fait divers est ancré dans l'esprit des Français, comme les affaires Grégory, Fourniret ou encore Dupont de Ligonnès. Et le Parisien de s'interroger d'où vient cette fascination pour les grands faits divers. À coup sûr, notre côté voyeur, mais ce n'est pas la seule explication. Nous sommes à chaque fois renvoyés au mystère de l'âme humaine. Qu'est-ce qui conduit certains d'entre nous à commettre le pire ?